Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Quand débutera le procès de Simone Gbagbo et de 82 autres personnalités de l'ancien régime ivoirien? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant que, rappelez-vous, la semaine dernière, les autorités avaient annoncé la date du mercredi 22 octobre. C'est donc théoriquement demain, sur le papier, que doivent commencer à comparaître les proches de l'ancien président Laurent Gbagbo pour leur implication présumée dans la crise post-électorale de 2010-2011. Le problème, c'est qu'à 24 heures de l'ouverture théorique du procès, eh bien, aucune date de comparution n'a été communiquée. Hier, l'un des avocats qui défend les accusés pro Gbagbo a même déclaré que le procès ne pourrait pas démarrer avant une quinzaine de jours à cause de retard dans la procédure. Vous venez certainement d'entendre les explications de notre correspondante sur place à Abidjan, Maureen Grisot. Elle parlait des démarches d'identification. C'est vrai que ces démarches d'identification des accusés ne sont pas encore terminées. Par ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs si les accusés comparaîtront un par un ou par groupe en fonction des chefs d'inculpation. Alors dites-nous, que vous inspire l'organisation de ce procès? Les conditions vous semblent-elles réunies pour une justice équitable? 09 693 693 70, 33 9 693 693 70 si vous nous appelez de France. Pour lancer le débat avec nous, Ibrahim. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous faites confiance à la justice ivoirienne, c'est ce que vous avez dit au Standard.
Oui, moi je dirais qu'on devait faire confiance à nos institutions et même le FBI devait, les pro Gbagbo devaient encore davantage faire confiance à cette juridiction, à nos juridictions. Souvenez-vous, en février-mai 2013, ils ont bénéficié pratiquement de plus d'une centaine de mises en liberté provisoire. Une dizaine d'officiers de la police, de l'armée ont été relaxés à la suite d'un procès. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas respecter? Et puis je dirais...
Mais attendez, Ibrahim, vous dites pourquoi avoir peur? Le camp FBI rappelle que l'ouverture de ce procès ne concerne que des partisans de Laurent Gbagbo.
Mais je le dis, je pense que les autorités ivoiriennes l'ont maintes fois répété. Est-ce qu'il y a ils ont introduit des requêtes ou encore déposé plainte contre des pros, entre guillemets, des pros Ouattara? Mais qu'ils le fassent et puis la justice suivra son cours. La justice ne peut pas se lever, ou c'est pas le gouvernement qui va se lever pour dire, j'ai entendu dire que tel a été, s'est rendu coupable d'une action, donc du coup je le traîne devant les tribunaux. Mais à eux de poser ces actes. Voilà, Simone Gbagbo, je pense que depuis lors, son procès devait avoir lieu, mais à maintes reprises, ses avocats et elles-mêmes ont dû poser des actes ou demander avoir l'immunité ici. Donc là, la justice est obligée de revenir, étudier le cas pour repartir.
Mais Ibrahim, est-ce que vous ne pensez pas qu'une fois de plus, les ONG vont quand même reprocher à la justice ivoirienne d'être sélective?
C'est vrai que les ONG posent le problème et tout le monde se pose la question. Mais je le dis, qu'on porte plainte et qu'on identifie ces personnes et que les dossiers aillent devant les tribunaux et on verra si les tribunaux ne vont pas écouter ces personnes. Et puis, comme je le dis, le ministre de la Justice et même le ministre de la Défense l'ont même fois répété, il y a des personnes qui sont incarcérées, qui passent devant les tribunaux militaires, mais dont ils ne font pas la publicité. Ils n'en ont pas besoin.
Bah, peut-être qu'il faudrait communiquer justement pour permettre aux ONG, notamment à la FIDH, d'être un peu moins sévères dans ses rapports et dans ses communiqués de presse s'agissant de la justice ivoirienne. En tout cas, merci Ibrahim de nous avoir appelé d'Abidjan sur la page Facebook de l'émission. Nelson nous dit par exemple, toute personne sensée sait que dans une guerre, il y a forcément des crimes des deux côtés. Une cour qui ferme les yeux sur tous les crimes d'un camp et qui les ouvre en revanche sur ceux de l'autre n'a aucune crédibilité. Fin de citation. 33 9 693 693 70. Bonjour Serge.
Bonjour Juan.
Vous n'attendez rien de ce procès?
Oui, effectivement, nous n'attendons rien de ce procès, qui d'ailleurs est un procès politique, dont l'objectif est de disqualifier toute candidature de la principale formation politique de l'opposition à la présidentielle d'octobre 2015. Il faut être aveugle, je dirais, pour ne pas se rendre compte que le pouvoir veut museler l'opposition.
Donc pour vous, excusez-moi Serge, pour vous le calendrier n'est pas anodin. Vous citiez à l'instant la présidentielle de l'année prochaine. Si le procès commence maintenant, c'est stratégiquement politique.
Oui, le procès est stratégiquement politique. Même le refus de transférer Mme Gbagbo n'est pas également anodin. C'est juste un alibi que veut se donner le pouvoir pour pouvoir refuser également de pouvoir mettre à disposition de la CPI les partisans de M. Ouattara. Mais ce que je veux dire, c'est que ces procès recherchent tout sauf la vérité. Figurez-vous que depuis un an, aucun acte d'enquête n'a été posé. Comment comprendre dans le concept actuel que la justice puisse juger simultanément 83 personnalités de l'ancien parti au pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Pensez-vous que M. Afin Dessan, président du FCI, mérite plus la présidence que sur du ancien chef rebelle? Pensez-vous que M. Akinbo, ancien premier ministre du dernier gouvernement de président Gbagbo, mérite plus la prison que Kone Zakaria, que le commandant Ouattara, et que sais-je encore, tous ces chefs de guerre qui ne se cachent plus et qui se pavent dans la ville d'Abidjan?
Donc c'est une justice, c'est une justice de vainqueur pour vous, Serge?
Bien sûr, c'est une justice de vainqueur et c'est sûr de tous. Aujourd'hui, au moins, il y a certaines ONG, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, qui refusent de rester sous un silence coupable et qui manifestent, qui témoignent leurs inquiétudes. C'est tout à fait aberrant. Quel État démocratique voulons-nous former, voulons-nous montrer à la face du monde? Quel État démocratique?
Il y a des réactions sur la page Facebook de l'émission. Il y a par exemple Daudet qui nous dit « Mais comment pouvez-vous comprendre que toute une opposition se retrouve en prison? 83 personnes, c'est du jamais vu à l'aube des élections de 2015. » Je précise tout de même à Daudet que les 83 personnes qui vont comparaître sont certes du camp de l'ex-président Laurent Gbagbo, mais certaines sont en liberté conditionnelle. Toutes ne sont pas détenues, notamment à la Maca, qui est la prison d'Abidjan. Merci Serge de nous avoir appelé. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Ernest.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous nous appelez de la région parisienne?
Oui, bien sûr.
On vous écoute.
Oui, merci Monsieur Juan. J'ai écouté Monsieur Ibrahim avec beaucoup de consternation quand je constate que c'est un Ivoirien qui s'exprime de la sorte parlant de son pays. C'est avec beaucoup de désarroi que je l'ai écouté.
C'est-à-dire, vous savez, que reprochez-vous à l'analyse, à la réaction du premier auditeur?
Monsieur Juan, le problème c'est que nous ne sommes pas contre le fait que Mme Gbagbo soit jugée, mais le problème c'est la crédibilité de la justice ivoirienne. Mmh. Alors quand on sait que dans ce pays, en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Diopoui, il y a eu des massacres, plus de 800 morts, selon le comité international de la Croix-Rouge, et que M. Ouattara estime qu'aucun de ses membres n'était impliqué dans ces massacres. C'est tout simplement aberrant. On sait que déjà les dés étaient bipés. M. Ouattara s'inscrit dans une logique de mise de l'opposition, dans une logique de se pérenniser au pouvoir, dans une logique de massacrer tous les pro-Gbagbo.
Oui, enfin, attendez, Ernest, vous êtes dans une logique de massacrer tous les pro-Gbagbo. Là, vous exagérez certainement dans vos propos. Quand vous parlez de Doukoué, effectivement, les ONG s'interrogent. La FIDH, il y a quelques jours, l'a souligné en disant que à ce jour, effectivement, il est difficile de comprendre, je reprends les propos de Patrick Baudouin, qui est le président fondateur de la FIDH, difficile de comprendre qu'aucun acte d'enquête n'ait été posé par les juges depuis plus d'un an. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme se dit même inquiète de l'inertie de la justice dans l'enquête de ce charnier découvert en octobre 2012 dans l'ouest donc de la Côte d'Ivoire. Donc vous, Ernest, pour vous, le procès qui est censé commencer dans les deux prochaines semaines est un procès politique?
Oui, tout à fait, c'est un procès politique. Et M. Orange, je vous ai dit que c'est une improvisation. Sinon, comment comprendre qu'un tel procès ne soit pas préparé dans toutes les conditions, toutes les conditions ne soient pas réunies, quand on sait qu'il y a des juges compétents en Côte d'Ivoire qui savent comment débuter un procès, comment organiser tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un procès normal, équitable, ouais. Et que c'est maintenant M. Ouattara se rende compte, avec du moins les juges se rendent compte, que les conditions ne sont pas réunies. Tout ça, c'est de l'improvisation, tout ça.
Improvisation pour vous? vous, mise en scène, vous dites. En même temps, il y a une lenteur administrative. On entendait tout à l'heure l'une des correspondantes d'RFI à Abidjan, Maureen Grisot, qui parlait de lenteur administrative. Elle disait qu'au palais de justice, par exemple, ils ne sont que quelques-uns à maîtriser l'organisation d'assises, des assises qui ont tout de même été interrompues ces 13 dernières années, et que le personnel, finalement, manquait de tout. Et parfois même, le personnel manquait de papier, tout simplement, pour photocopier les actes. Merci en tout cas de cette remarque, Ernest. On vous souhaite une bonne journée en région parisienne. 33 9 693 693 70. Abou, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous êtes à Boaké, en Côte d'Ivoire.
Oui.
On vous écoute.
Bon, d'accord. Moi, je pense que le précédent, enfin, l'auditeur qui vient de passer, il avance des allégations. Ben, je pense qu'il faut apporter des choses avec des preuves. Donc, il y a eu une justice qui a préparé tout ce procès. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, il y a un procès en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, il n'y avait pas de procès. Les gens étaient exécutés sommairement. Il n'y avait pas de justice. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que voilà un régime qui juge des personnes et donne l'opportunité à ces personnes de prouver leur innocence. C'est un pas vers la démocratie, je pense.
Un pas vers la démocratie, même si les juges ne s'intéressent pour l'instant qu'à un seul camp.
Oui. Vous savez, les Ivoiriens doivent dépasser le complexe de la justice de vainqueur. Je le dis et je le répète. Parce que la justice ne peut pas s'auto-saisir de faits. Il faudrait que cette personne qu'on présume avoir tué ou bien avoir commis des actes ou bien des victimes puisse aller devant la justice et puis aller se plaindre. Mais s'il n'y a pas de plainte, je pense que la justice ne peut pas s'auto-saisir, mais l'État n'a pas de preuves contre ces personnes. Maintenant, ceux qui estiment qu'ils ont des preuves doivent aller. C'est ça la justice, je pense. Donc, moi, j'invite les gens...
C'est ça la justice, mais par exemple, le précédent auditeur Ernest, qui était très en colère à l'égard de la justice ivoirienne, faisait référence au charnier découvert à Doué-Coué en octobre 2012. Vous êtes à Boaké, mais en même temps, la FIDH dit, ce qui est regrettable, c'est qu'à ce jour, aucun responsable des forces de l'ordre n'a été entendu dans cette affaire. Alors que même plusieurs éléments ont été identifiés par les victimes.
Attendez, Juan. Mais que la FIDH intente une action devant la CPI, devant les tribunaux aussi, ils ont les preuves de tout ça. Mais c'est très simple ça, M. Juan Gomez. Donc moi, j'estime que aller devant la justice, ayez confiance à la justice, parce que c'est un enjeu pour les services de justice de montrer sa crédibilité à travers ces procès et à l'État de démontrer qu'elle peut donner les moyens à la justice d'être crédible. Et c'est ça aussi l'émergence, je pense.
Merci voilà. Abou. Bonne journée à Boaké. Merci de nous avoir appelés. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous nous appelez de Grenoble. Vous êtes en France.
Oui, je suis en France. Je voudrais intervenir un peu sur ce que mon prédécesseur vient d'indiquer. Je pense qu'il faudrait qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Il y a eu un conflit. Il y a eu deux camps. Il y a eu des tueries dans les deux camps. Il y a un camp seulement qui est poursuivi. Là, tout le monde entier le voit. Et le prédécesseur doit avoir la hauteur de l'esprit pour comprendre qu'il y a une injustice qui se fait. Revenons au procès. Moi, je pense que c'est une parodie de justice qui va s'organiser. C'est une comédie politico-judiciaire qui s'organise. Parce que les élections, la date n'est pas choisie de façon fortuite. Les élections présidentielles, c'est dans un an exactement. Et après l'appel d'Aoukro de M. Bédier, M. Alassane veut montrer aux Ivoiriens, veut se moquer encore des Ivoiriens, pour dire que la justice fonctionne, peut-être libérer quelques-uns des Gbagbo, et pour dire que, bon, voilà, la réconciliation est en marche. Donc je pense que M. Ouattara, que le régime actuel, arrête de se moquer des Ivoiriens. Si ce régime veut juger des coupables, que tous soient jugés. Et pourquoi? Si, quand j'ai écouté le reportage de votre collègue ce matin, au niveau de la cour d'assises, rien ne fonctionne correctement. Alors, le pouvoir sait que rien ne fonctionne et il fixe une date. Ça veut dire qu'il y a une question de précipitation en fonction des élections présidentielles qui arrivent bientôt. Et M. Ouattara veut embellir un peu son image.
Alors, Paul, voilà, c'est votre point de vue. Ne raccrochez pas, vous êtes à Grenoble, on vous a écouté attentivement. Sydney, lui, est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, Sydney.
Bonjour.
Vous, contrairement à Paul, vous pensez que ce procès va permettre d'évacuer, je cite vos propos tout à l'heure au Standard, le contentieux de la crise post-électorale.
Tout à fait. Bon, moi, me concernant, je veux dire que ce procès-là, en ce qui me concerne, va permettre d'évacuer le contentieux du processus électoral. Oui. Parce que, je veux dire, ça ne fait que trop durer. Et pour ceux qui parlent de justice des vainqueurs, pour moi, c'est des, vous m'excusez le thème, mais c'est des inepties. Parce que, je veux dire, nous tous, nous ne sommes pas historiens, mais nous avons vu dans le déroulement de l'histoire, que ce soit en Europe ou ici, après des guerres, nous avons vu que le vainqueur ne se juge pas lui-même. Ça, c'est un. Et de deux, comme il y a un auteur qui l'a dit, quand tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, tu réunis les éléments de preuve, tu déposes où il faut les déposer. Et ensuite, la procédure suit son cours. Il y a la justice au niveau de la CEDEAO. Il y a la CPI qui est là. Si tu estimes que la justice ivoirienne est impartiale, tu fais ton dossier.
Ouais. En tout cas, ce que vous avez dit, Sydney, c'est que le vainqueur ne se juge pas lui-même. Christian, bonjour.
Bonjour, comment ça va,
Juan? Ça va, merci de nous appeler d'Abidjan. Lorsque Sydney tient ce propos, les vainqueurs ne se jugent pas eux-mêmes, vous en pensez quoi, vous?
Je pense que Sydney fait fausse route. Quand on parle de justice, il n'y a pas à dire qu'on est vainqueur, donc on n'a pas à se juger. D'accord? La justice, elle est bonne pour tout le monde, même au-dessus, on va dire, de la loi ou de la justice. Pour ce qui concerne notre pays en ce moment, avec les procès qui sont en cours, des pro-Gbagbo, enfin, moi, j'attends rien de cela, parce que je pense que rien n'est fait depuis déjà 3-4 ans que M. Ouattara est au pouvoir pour amener la justice, amener même la réconciliation en Côte d'Ivoire. D'un côté, il y a des gens qui sont brimés, qui sont secrétaires en prison, et d'autres, bon, qui roulent carrosse.
Ouais. Christian, le réseau téléphone n'est pas bon avec votre téléphone portable. On va essayer de vous rappeler, quoi qu'il en reste à peine 4 minutes. Merci en tout cas de votre commentaire. Brahima, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Korogo, à 700 km d'Abidjan.
Oui, je suis à 700 km d'Abidjan,
voilà,
dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Dans le nord. On vous écoute, soyez bienvenue.
Alors, je veux vous remercier de m'avoir passé l'antenne. Je voudrais vous préciser que je suis ivoirien et que je suis en Côte d'Ivoire. Tout ce qui peut concourir à la paix en Côte d'Ivoire doit être appliqué. Il y a la justice, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de vainqueur ou de... Une justice, quelqu'un a commis une faute, doit passer devant la justice. Au jour d'aujourd'hui, la justice ivoirienne est équipée pour juger des crimes, atteintes à la sécurité de l'État. Il faudrait que les uns et les autres et comprennent que la Côte d'Ivoire est ouverte. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a d'autres juridictions que vous pouvez faire intervenir.
Oui. Mais vous avez l'impression, qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont commis par le passé des violences se retrouvent devant la justice ivoirienne?
Mais je ne suis pas un juriste, je suis un Ivoirien, je suis quelqu'un qui a vécu cette guerre.
Oui.
Je suis quelqu'un qui a vécu cette guerre. Je n'ai pas la même réalité que ceux qui se promènent à Paris.
D'accord, mais justement, c'est bien pour ça. Moi qui suis à Paris, je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Brahima, que la justice fait correctement son travail et qu'effectivement, les juges s'intéressent à tous ceux qui ont commis des actions de violence?
Juan Gomez, je voulais confirmer qu'en Côte d'Ivoire, la justice fait son travail et fera son travail. Tous ceux qui auront commis un acte contre la justice, contre l'État de Côte d'Ivoire, seront jugés au même titre que ceux aujourd'hui qui doivent passer. Aujourd'hui, c'est eux. Mais qu'est-ce qui prouve que demain, vous croyez qu'Alassane Ouattara va pouvoir laisser n'importe qui faire de n'importe quoi, que tu sois de son parti ou que tu ne sois pas de son parti? Il faut que les gens arrêtent de rêver et qu'on se mette d'accord. La Côte d'Ivoire, nous avons vécu des situations très difficiles.
Brahima, je vous interromps. Très bien. Bah, merci d'avoir appelé de Korogo, RFI à Korogo, 97.6 FM. Demain, vous réagirez à la décision des autorités de Kinshasa d'expulser le chef du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, des ONG dénoncent cette décision. Et vous, qu'en pensez-vous? On en parlera évidemment demain. Bonne journée à tous.
Appel sur l'actualité. Vous a été présenté par Orange Monnaie.